Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Des minerais de sang se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? En tout cas, les autorités de la RDC accusent le géant américain du numérique d'utiliser des minerais exploités illégalement sur le sol congolais par des groupes armés soutenus par Kigali. La RDC adresse ainsi une mise en demeure à Apple via deux avocats français mandatés par le pays. Les populations de l'Ituri restent optimistes quant à l'issue positive du dialogue intercommunautaire ouvert hier. Travaux lancés par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, il s'agit d'impliquer tous les acteurs afin de poser un diagnostic réel des causes de l'insécurité en Ituri et trouver des solutions durables. Et puis, certaines aires de santé du Maniema sont touchées par la montée des eaux du fleuve Congo. C'est notamment la zone de santé de Ferekeni. Le médecin-chef de cette zone lance un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés, surtout les enfants de moins de 5 ans. Docteur Stanislas Kakomba est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC accuse la société américaine Apple, qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac, d'utiliser dans ses produits des minerais qui proviennent des sites d'exploitation illégale. En guise d'avertissement, une mise en demeure a été adressée cette semaine à Apple par la RDC via deux avocats français mandatés par le pays. Des questions ont été envoyées aux géants américains dans ce courrier adressé et des réponses claires de Apple et de ses filiales en France sont attendues sous 3 semaines, affirme le gouvernement congolais dans un communiqué rendu public jeudi. Explication avec vous, Cynthia Bachizi.
Minerais de sang, le blanchiment des 3T de la RDC par le Rwanda et les entités privées. C'est le nom du rapport publié par la Task Force Justice Internationale qui fonde la démarche de l'État congolais. Explication du gouvernement dans son communiqué de presse. C'est clair que ça peut être une démarche dissuasive et qui peut nuire à l'image d'Apple, affirment des experts interrogés. Mais plus loin, cette action peut aussi avoir un impact négatif pour le secteur, surtout dans l'Est de la RDC avec des consommateurs finaux à l'échelle internationale qui peuvent se méfier de tous les minerais produits dans cette partie du pays, regrette un opérateur minier. Il aurait fallu que le gouvernement épingle les sites sous contrôle du M23, renchérit une autre source. Cela notamment parce que le pays a souscrit à plusieurs mécanismes de traçabilité grâce auxquels l'exportation de nos minerais se poursuit officiellement à partir de certains sites du Nord-Sud Kivu ainsi que du Maniema, même si le risque zéro de fraude n'existe pas. Tout compte fait, les avocats mandatés par la RDC pourraient entreprendre des actions appropriées en justice contre Apple si les réponses fournies ne sont pas satisfaisantes à l'issue de cette mise en demeure.
Arrestation du député provincial honoraire du Nord Kivu, Jean-Paul Ngangondi. Il a été placé en détention depuis jeudi à Beni par les FARDC. Il est accusé par l'armée d'avoir fait partie du groupe des EDF qui ont attaqué la localité de Ngite, située à 17 km de la ville de Beni. Des accusations rejetées par le concerné. Plus de détails avec Martial Papi Mukeba.
C'est devant des journalistes locaux que Jean-Paul Ngahangondi a été présenté par les porte-paroles sortant des opérations Sokola 1 comme l'un des deux capturés pendant les combats en Ngite entre les ADF et la coalition des armées congolaises et ougandaises. Capitaine Anthony Mwalushai.
Parce que je vous ai parlé des deux capturés pendant cette opération. Nous avons Monsieur Ngahangondi, Jean-Paul, on l'a trouvé dans l'embuscade au même moment du côté des ADF.
Une version rejetée par l'accusé qui, quelques heures plus tôt, était présenté par l'armée ougandaise à un autre groupe de journalistes comme rescapé de l'attaque. Jean-Paul Ngahangondi.
Quand je revenais de Beni, j'arrivais juste à face du cas de nos militaires FARDC. Je me suis retrouvé dans une situation incompréhensible, des crépitements de balles partout. Et lorsque je voulais retourner, je suis tombé. C'est comme ça que les militaires IPDF et FARDC sont venus me récupérer là-bas pour me protéger et continuer avec les opérations.
Depuis jeudi, Jean-Paul Ngahangondi est détenu par les FARDC. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nord-Kivu, toujours dans le territoire de Walikale, la situation que traversent des dizaines d'enfants déplacés dans des sites de déplacés des groupements Lubérique et Walo à Ouroba nécessite une protection spécifique de la part des autorités et des partenaires de protection. C'est le plaidoyer que lance un officier de protection de l'enfant dans ce territoire. D'après André Ushindi, ces enfants déplacés vivant dans des sites sont exposés à plusieurs risques. C'est entre autres leur recrutement au sein des forces négatives, d'où cet appel de cet acteur au gouvernement et aux partenaires de protection en faveur de cette catégorie d'enfants. André Ushindi, joint par Denise Lukeso.
Vous pouvez demander auprès du gouvernement de toujours multiplier les efforts de la division des affaires sociales, de bien faire les suivis pour les enfants déplacés. Il y a la présence des enfants non accompagnés. Il y a aussi les enfants qui sont aussi associés à des forces groupées armées. Il y a aussi également les enfants qui demandent des protections spécifiques, qui doivent être protégés par les services des affaires sociales, mais aussi aux partenaires de mobiliser les fonds, voir comment ils peuvent venir intervenir à Walikale. Parce que ça fait presque une année que Walikale a un gap et n'a pas un appui financier de la protection de l'enfant. Donc, c'est plus qu'urgent de venir en aide pour les enfants, de leur prise en charge psychologique, mais aussi réinsertion socio-économique. Particulièrement aussi, il y a les 40 enfants qui sont dans les groupes armés, que le chef a accepté que ces enfants puissent sortir comme des acteurs locaux. Nous manquons comment nous pouvons aussi faire l'accompagnement de ces enfants-là jusqu'à faire le processus d'aider enfants.
Je vous le disais en titre, en Ituri, différentes couches de la population restent optimistes quant à l'issue positive du dialogue intercommunautaire pour la paix durable dans cette province. Débuté hier en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, ces assises ont pour objectif d'impliquer tous les acteurs afin de poser un réel diagnostic des causes de l'insécurité en Ituri dans l'espoir de trouver des solutions durables et ainsi pacifier totalement cette province meurtrie par des conflits depuis décembre 2017, des représentants des groupes armés actifs signataires du récent acte de cessation des hostilités y participent. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Leader de 21 communautés de l'Ituri, responsable de confessions religieuses, chef coutumier, membre de la société civile et des organisations des jeunes prennent part à cette table ronde pour la paix. Tous sont unanimes pour trouver des vraies causes de cette persistance de conflits armés dans cette province pour y chercher des solutions durables entre Ituriens. Pour Michel Meta, coordonnateur de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, il a dit, le moment est venu pour que les Ituriens trouvent solution aux problèmes sécuritaires qui rongent cette province depuis plusieurs années.
Le moment a sonné de se mettre autour d'une table, discuter. Et l'État aussi de son côté doit mettre la pression sur ceux qui refusent de mordre à la maison de la paix et de leur imposer une paix pour qu'il y ait une paix durable.
Selon des organisateurs, à la fin des travaux, un plan d'action communautaire pour la consolidation de la paix sécuritaire et de cohésion sociale en Ituri sera élaboré. Une commission mixte des suivis des actes d'engagement signés par les 5 groupes armés actifs FRPI, FPIC, IRDPC, Barkodeko, Zaïre et MAPI sera également mise en place. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Célébration aujourd'hui ce vendredi 26 avril de la journée africaine de la détention préventive, journée instituée sur l'initiative du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Dans une déclaration à la presse à Kinshasa à cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé au gouvernement de recourir fréquemment à la procédure de libération conditionnelle des prisonniers afin de contribuer au désengorgement des milieux carcéraux. Paul Sapou a réitéré la volonté de la CNDH de demeurer sur la ligne de l'amélioration des conditions de détention carcérale en RDC, ce conformément aux standards internationaux. On écoute le président de la Commission nationale des droits de l'homme dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La commémoration de cette journée nous place devant notre responsabilité d'évaluer les conditions carcérales, lesquelles dépendent certains droits dont la santé, l'alimentation et l'environnement. L'institutionnalisation de cette journée vise à engager les institutions nationales de droits de l'homme à davantage œuvrer en vue d'une réduction de l'usage excessif de la détention préventive, y compris par la promotion des réformes juridiques et des politiques pénales sur les alternatives à l'incarcération, les interventions parajuridiques et l'évaluation de la détention préventive. Les États sont encouragés à apporter un encadrement législatif à la détention préventive. La CNDH tient à suivre de plus près cette situation afin de parvenir à des avancées législatives qui promeuvent et protègent les droits humains ainsi que les valeurs des dignités humaines dans le milieu carcéral.
Et puis, phénomène enfant de la rue, communément appelé Chege, dans la ville de Kolwezi, province de Lualaba. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, ces enfants sont très agressifs et ne laissent rien à leurs victimes. Le conseil provincial de la jeunesse du Lualaba plaide pour leur encadrement car ils constituent un danger public. Grâce Amzati les a rencontrés sur place à Kolwezi.
Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans sont visibles à plusieurs endroits. C'est notamment à Kasulu, Chamanzika, Manika et Kanina et Wabura. Ils y sont tout au long de la journée au point que certains passent la nuit au marché à la Belle Étoile, s'exposant à toutes sortes d'intempéries. Au regard de l'ampleur de la situation, le président du conseil provincial de la jeunesse lance un SOS aux autorités et aux organisations de protection de l'enfant. Emmanuel Mouteb.
Les enfants qui arrachent les téléphones, les sacs, ils dérangent les paisibles citoyens, ils coupent à un moment donné des routes, ils arrachent les téléphones, l'argent. Les gouvernements provinciaux comme les partenaires au niveau national et international, ils doivent récupérer tous ces enfants pour leur insertion sociale, en les mettant dans des centres de formation de métiers pour qu'ils soient utiles dans la société.
Le ministre provincial de l'Intérieur indique qu'il a demandé au maire et au bourgmestre des deux communes que compte la ville de Kolwezi, ainsi que celui de Fungurume, de conjuguer les efforts pour juguler ce phénomène qui ternit l'image de la province. Deoda Kapen rassure que le gouvernement provincial de Lualaba étudie les stratégies à mettre en place pour le bon encadrement de ces enfants, avec l'implication de la société civile et des structures qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant. De Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. Une dizaine de magistrats et agents des parquets civils et militaires de Beni et Butembo viennent d'être formés sur les techniques d'investigation numérique et d'analyse criminelle. Cette formation clôturée hier a été organisée par l'unité d'appui à la justice de la MONUSCO Beni. Elle s'est déroulée durant 2 semaines. Objectif, outiller les magistrats sur la conduite des enquêtes en vue de lutter contre l'impunité des crimes commis dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Le compte-rendu de Sadiq Aboubakar.
La majorité des magistrats formés ont été nouvellement infectés dans la région de Beni et Butembo. L'une d'eux, Angèle Damako Kakusemo, substitut du procureur près le tribunal de paix de Beni, parle d'une formation bénéfique pour sa carrière.
Vous savez, je viens juste d'arriver à la magistrature. Je suis vraiment ravi de cette formation et sûr de moi que ça va m'aider dans ma carrière.
Le major magistrat Georges Nkoua, auditeur militaire de garnison de Butembo, affirme pour sa part que, grâce à cette formation, il est maintenant capable d'exploiter avec facilité une réquisition de téléphonie mobile.
Toutes les rubriques qui sont là, nous n'étions pas à mesure de les interpréter, mais maintenant j'ai appris toutes les rubriques d'une réquisition qui vient d'une téléphonie mobile, partant de l'email, partant de la localisation, partant des données longitudinales. Avant, on se débrouillait manuellement. Mais maintenant, avec le logiciel que nous venons d'apprendre, i2 Analyst, des IBM, c'est un logiciel puissant et puis qui nous facilite les opérations.
Le chef des bureaux de la MONUSCO, Beni, affirme que cette formation s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO d'appuyer la justice congolaise pour lutter contre l'impunité à travers la répression des crimes commis contre les civils. Les magistrats formés ont souhaité que les juges de Beni et Butembo bénéficient de la même formation. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Examen d'État édition 2024, les épreuves de dissertation selon le calendrier scolaire 2023-2024, c'est pour le 6 mai prochain. La province éducationnelle Maniema 1 s'est dit prête à organiser ces épreuves. Dans une interview avec le Proved, Mokito Kaunda informe aux parents et à tous les acteurs éducatifs que les malles contenant les items de l'examen d'État sont déjà arrivés à Kindu. Mokito Kaunda Séraphin au micro de Florence Kizalunga.
Au Maniema, tout est prêt. Les malles sont arrivés au moment où nous parlons. Nous avions déposé les malles au niveau de l'ANER. Et je pense que à partir du lundi, nous allons déployer tous les intervenants sur le terrain pour l'organisation de l'épreuve de dissertation. Je demande à tous les parents de ne plus hésiter, de ne plus avoir des illusions en tête. Je leur confirme que tout est mis en place pour la bonne organisation de la dissertation le 6 mai à 8 heures. Que les gens ne leur disent pas qu'il y aura un changement ou il y a un changement. À moins que ce changement vienne de Kinshasa à la dernière minute. Mais à notre niveau, la province de Maniema 1 est déjà prête pour accueillir les enfants le 6 mai pour leur premier test de la vie. Les enfants doivent abandonner la distraction. Je leur demande qu'il reste petit temps, ils doivent prendre les choses au sérieux.
Actualité internationale.
Nous sommes au Togo. Les élections législatives de lundi sont déjà au centre des préoccupations des habitants de Lomé, la capitale togolaise. Un vote très critiqué dans un contexte où l'avènement d'une nouvelle république est envisagé. Au-delà de cette querelle politique, le citoyen lambda a sorti la liste de ses préoccupations. La rue attend une nouvelle ère. Ce débat doit être aussi porté par l'opposition, mais ces manifestations ont été annulées ces dernières semaines. Dans un rapport publié mercredi, Amnesty International par exemple, a dénoncé des entraves aux libertés fondamentales dans le pays.
L'invité.
Il nous vient du Maniema, docteur Stanislas Kakomba, médecin chef de zone de santé de Ferekeni. Certaines aires de santé de cette zone sont touchées par la montée des eaux du fleuve Congo. Victime, ce professionnel de santé donne quelques conseils et lance un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés, surtout les enfants de 0 à 59 mois. Docteur Kakomba s'entretient avec Florence Kiza.
Docteur Stanislas Kakomba, bonjour.
Bonjour Florence.
Certaines aires de santé de votre zone de santé de Ferekeni attaquées par la montée des eaux du fleuve Congo. Côté sanitaire, comment vivent les communautés de ces aires de santé?
Après cette catastrophe, la communauté de l'aire de santé de Toubila et celle de Koé vivent dans une situation précaire. C'est-à-dire, ils ont abandonné leurs ménages respectifs pour vivre ailleurs, parfois dans des petits campements au-delà du fleuve, parfois dans d'autres maisons d'accueil.
Parmi les victimes, qui sont les plus affectées?
Bon, d'abord c'est toute la communauté concernée qui est affectée, mais d'une manière particulière, j'estime que les enfants 0 à 59 mois sont les plus concernés de cette circonstance, parce que là, ils seront exposés à toutes les maladies hydriques, et d'ailleurs, les latrines sont détruites. Et quand les latrines sont détruites, voilà comment est-ce que l'eau est en train de ravager tout l'espace de ce village. Et là, la défécation devient contrôlée. Et là, la propagation de plusieurs sortes de microbes est à la portée de ces enfants. Et ces enfants 0 à 59 mois que je déclare, c'est la catégorie la plus touchée, risquerait de connaître un désastre, si je peux dire ainsi. Et entre-temps, ce sont ces enfants-là que nous sommes en train de chercher comment les protéger.
Est-ce que à cette période, dans des hôpitaux, il y a déjà des cas de maladies d'origine hydrique qui sont enregistrés?
Bon, j'ai des données épidémiologiques qui sont en train d'être partagées entre nous, l'équipe cadre et les déserts de santé. Oui, certains cas sont déjà enregistrés dans les déserts de santé, que ce soit Toubila, que ce soit Koé. Et la diarrhée est là déjà, mais on est en train de penser comment prévenir que guérir.
À ces 2 heures de santé, la population est estimée à combien?
Bon, toutes les deux aires de santé ont une grande population et c'est dans les 20 000 habitants dans les deux aires de santé. Et nous estimons que la population qui est atteinte avec cette catastrophe est à 80% de cette communauté des déserts de santé.
Une catastrophe naturelle qui pousse certains à quitter leur ménage. Quel comportement adopter pendant cette période, docteur?
Là, c'est en amont et en aval. Par rapport au comportement sanitaire avec l'hiérarchie, nous allons prodiguer les conseils, les CCC, changement de comportement, et nous allons demander à la communauté de bien se comporter, d'utiliser de l'eau propre, éviter d'efféquer ça et là, parce que là, après la pluie, il y aura propagation des germes, et ça, c'est en amont. En aval, nous disons que l'hiérarchie puisse penser, parce que d'abord, c'est leur communauté, il faut peut-être, si je peux dire comme ça, penser à ravitailler certains médicaments pour lutter contre la diarrhée, les iras, les paludismes, c'est-à-dire en un mot, approvisionnement en médicaments est utile, et rendre disponible aussi les tentes, s'il y en a, des moustiquaires, et toutes les personnes de bonne foi peuvent penser à alimenter du point de vue médicamenteuse, du point de vue équipement de lutte contre les infections, nous appelons ça en termes techniques PCI, ça va nous aider à limiter certains dégâts éventuels qui peuvent surgir pour cette communauté.
Justement, docteur, pour ceux-là qui auront les soucis d'assister les victimes, ils peuvent penser à quoi? Quels sont les besoins urgents?
Les besoins urgents, comme je viens de dire tantôt, d'abord, les rendre disponibles les kits de protection contre les infections. Les médicaments, les structures concernées sont là. Les solités sont très utiles parce qu'en cas de flambée diarrhéique, nous allons recourir à ces solités. Au lieu d'attendre que les cas puissent augmenter d'une manière extraordinaire, et c'est à ce temps-là qu'on doit commencer à approvisionner. Nous demandons les médicaments d'une manière urgente à ceux qui ont la bonne foi. Les médicaments d'abord, les moustiquaires également, parce que là, ils sont dans la forêt. Ils passent la nuit à la belle étoile. Les moustiquaires sont aussi importantes pour que cette communauté soit sauvée de plusieurs difficultés sanitaires.
Docteur Stanislas Kakomba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kiza.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.